Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Pendant une heure, les invités reviennent sur un jour important de leur vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Sarano. Bonjour François Sarano.
Bonjour Zoé.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Une journée particulière. Zoé Varier, sur France Inter.
François Sarano, vous êtes océanographe, plongeur, mais vous êtes un plongeur singulier. Vous devenez un peu poisson sous l'eau, vous pensez cachalot, vous pensez requin blanc. Le plus important pour vous, c'est de vouloir les comprendre, se comprendre et d'être attentif à l'autre, de la bienveillance. Vous êtes un plongeur bienveillant, François Sarano.
Oui, c'est un mot que j'aime beaucoup, bienveillant. Et je pense que la bienveillance... l'attention à l'autre, la considération, est ce qui nous permet de trouver la distance juste avec nos voisins, avec tous nos colocataires, terre avec un grand T majuscule et deux RE. Et je pense que ça peut changer le monde.
Alors au départ, François Sarano, vous n'aviez pas envie de choisir une journée particulière. Vous disiez toutes les journées pour vous sont particulières. Vous êtes un bienheureux.
Chaque journée est particulière. Ce moment est particulier avec vous. Ce week-end avec Véronique, mon épouse, mes filles, ma petite fille Ayaté, sera une journée formidable. Et oui, je crois que c'est Jacques Perrin qui m'a appris ça. Il faut faire attention à chaque une des journées que nous vivons. Et le matin, lorsque je me lève, je fais effort, même si j'ai pas bien dormi. Je fais effort, j'ouvre la fenêtre et je dis « Bonjour !» Et ce « bonjour » me force à prêter attention, à me souvenir à qui je dois le fait d'être dans cette maison, devant ce jardin, à prêter attention à la maison charbonnière qui est la première à venir là, sur les graines qu'on met devant la fenêtre. Et puis après, il y aura les pinsons, et puis après, les chardonnerets, et puis par la suite, peut-être les tarins des aulnes. Donc, prêter attention, c'est se rendre riche de tout ce qui nous entoure, et qui, somme toute, est là, et comment dire, il faut pas s'en priver. Et ça rend vraiment bien.
Mais alors quand même, François Sarano, moi je vais vous forcer, je vous ai forcé à choisir une journée particulière, et c'était en mai 2015. Vous étiez au large de l'île Maurice, et vous avez une rencontre avec un jeune cachalot, Elliot, qui a bouleversé votre vie.
Bonjour, Guilrona. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna, mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix, sous le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince, tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince, je suis tellement triste. Je ne puis jouer avec toi, dit le renard, je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ?»« Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus, je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il.
François Sarano, c'était une archivina de 1954, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, dit par Pierre Freinet. François Sarano, c'est un peu ce qui vous est arrivé en mai 2015. Vous étiez un peu à la place du Petit Prince.
Du Petit Prince. D'abord, je veux dire à quel point merci. C'est un des textes les plus beaux que je connaisse et auquel je suis infiniment sensible. Donc, voilà. Et que dire après ce texte? Je crois qu'il faudrait que les gens le relisent et l'écoutent à nouveau. Mais c'est vrai, nous étions avec mon ami René Heuzé en plongée à l'île Maurice. Nous avions raté la plongée. On s'était mis à l'eau, les cachalots que nous voulions voir s'enfoncent et nous nous retrouvons seuls, prêts à remonter sur le bateau, quand soudain...
C'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ?
Ça, ce sont les clics qu'émettent les cachalots lorsqu'ils essayent de voir bien au-delà de ce que nous, nous voyons grâce à l'écholocalisation. Et lui nous avait vus, nous, nous n'avions rien vu. Et tout d'un coup, nous avons vu approcher ce cachalot que je ne connaissais pas encore si bien.
Alors Elliot, les clics se sont rapprochés encore ?
Les clics se sont rapprochés.
Ça faisait comment ?
Ils sont tellement serrés que ça fait une sorte de plainte incroyable. Mais surtout, il était là, face à nous, il est venu face à moi. Et tout d'un coup, je me suis senti non plus le chercheur, observateur qui essaye d'étudier les cachalots, mais celui qui était observé, étudié et apprivoisé. Parce que non seulement Elliot est resté avec nous et a dansé pendant 10 minutes, en s'offrant, il se met sur le dos pour offrir son ventre. Et il faisait des arabesques incroyables. Un cachalot, c'est 50 tonnes de délicatesse. C'est formidable. Et tout d'un coup, il s'est mis à exprimer dans la langue des cachalots l'envie d'une caresse. Cette petite expression sonore très particulière, qui est propre à ce groupe, qui est propre à Elliot, veut dire « je souhaite un contact physique, une caresse ».
Mais vous l'avez compris ça tout de suite, François Sarah?
À l'instant, sur le moment, je ne l'ai pas compris. Il a fallu que les études que nous menons depuis des années avec toute l'équipe de la MMCO de longitude 181, nous montrent avec certitude que lorsqu'on entend cette expression sonore, les cachalots, si l'appel et la réponse sont favorables, se réunissent et se font des câlins.
Alors qu'est-ce que vous avez fait, vous? Parce que vous n'êtes pas un cachalot, François Sarano.
Non, et Elliot savait parfaitement que je n'étais pas un cachalot. Mais je pense qu'il a vraiment, vraiment tenté de me tendre la main, de m'apprivoiser. Et ce que je sors d'important de ça, c'est que je ne comprendrai jamais le cachalot, évidemment, et Elliot ne me comprendra jamais. Mais qu'il y a eu un moment où ça n'avait aucune importance de se comprendre. La seule chose importante, c'est de vouloir se comprendre, de vouloir tendre la main à l'autre. Et à ce moment-là, on trouve cette distance juste, parfaite, où on est en accord, où chacun est heureux de la présence de l'autre, et où on échange, et je pense que c'est une vraie leçon. Parce que je suis sûr qu'avec mes voisins qui ont une religion, une tradition différente de la mienne, c'est difficile de se comprendre. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Si on veut se comprendre, on va trouver les moyens de vivre en paix. On va trouver les moyens d'être en accord. Et c'est ça que nous apprend le cachalot, ou le requin blanc, ou le crocodile. C'est de vouloir comprendre l'autre.
Comment vous avez répondu ce jour-là à la sollicitation d'Eliott? Parce que alors, il vous a amadoué, il vous a tourné autour. Qu'est-ce qu'il a? Oui, Il a nagé, il a fait des cabrioles.
Exactement.
50 tonnes de cabrioles.
50 tonnes de cabrioles. Et moi, j'ai répondu maladroitement et il s'en est douté. Parce qu'évidemment, nous sommes des nageurs bien piètres à côté d'un cachalot.
Mais comment vous avez répondu?
Alors, en faisant moi-même des cabrioles. Et lorsque je me mettais sur le dos et que je tournais, lui-même se mettait sur le dos et se retournait. Lorsque je pirouettais en avant, il pirouettait en avant. Et c'est juste, comment dire, un moment d'accord incroyable avec un animal sauvage. J'insiste là-dessus, libre, indompté. Parce que sauvage, ça ne veut pas dire agressif ou fuyant. Ça veut juste dire qu'il n'est pas domestique, qu'il n'est pas dans la domus, mais qui était, comme autrefois, dans la silva, dans la forêt, dans l'océan de verdure. Ici, c'est l'océan. Cet animal sauvage a accordé de l'importance à l'altérité, à quelqu'un qui est autre que son espèce. Ça veut dire aussi que nous, les hommes, n'avons pas le monopole de la curiosité et nous n'avons pas non plus le monopole de l'envie d'apprivoiser l'autre. C'est cette intelligence extraordinaire, qui a des capacités que, bien sûr, nous n'avons pas, a aussi l'envie de découvrir le monde. Ils jouent les cachalots, ils s'intéressent à tout le reste.
Ils sont incroyablement curieux.
Et donc nous avons cabriolé pendant 10 minutes. Et 10 minutes, c'est incroyablement long. Sous la caméra de René. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que parfois, il était entre René et moi, trop grand. Donc il se pliait, il reculait pour ne pas nous heurter. C'est d'une délicatesse incroyable, un cachalot. C'est d'une attention incroyable, un cachalot.
Alors François Sarano, ce jour-là, vous êtes vraiment un bienheureux. Ce jour-là de mai 2015, vous êtes devenu l'homme qu'un jeune cachalot, Elliot, voulait apprivoiser.
La mer va dehors, la mer va dedans. Touche le petit poisson qui habite dans la mer, c'est vrai, tu sais. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. La mer c'est bleu et les poissons sont verts. C'est vrai, c'est un fait. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Les éléphants sont gris et la mer c'est bleu. La mer c'est bleu et les éléphants sont gris. Mais qu'est-ce qu'il y a des éléphants ici? La mer c'est bleu et les éléphants y vont. Les éléphants y vont en vacances. Les éléphants font des vacances comme tout le monde. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli. Et tout le monde s'amuse bien à la plage. Comme ça. Le bateau ne marche pas, c'est trop petit. Les éléphants tombent dans la mer. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils nagent jusqu'à la plage. Les éléphants, ils sont sauvés. Et tout le monde va à la plage parce qu'il est bien joli.
Vous, François Sarano, vous avez vu des éléphants à la plage?
Oui, on était aux îles Andaman avec la Calypso. Et
du commandant Cousteau,
oui. Et nous avions plongé toute la journée sur un banc qui s'appelle le banc invisible, où il y a beaucoup, beaucoup de requins. Et en rentrant de cette plongée, quelqu'un nous dit « J'ai un truc formidable !» Ici, il y a des éléphants qui traversent à la nage le bras de mer entre les deux îles, la Grande Andaman et une petite île qui était à côté. Venez voir ça. Et là, stupéfaction! Effectivement, l'éléphant, le gros, la barrique,
ouais,
complètement immergé, avec sa trompe qui dépasse à peine pour respirer, et nous, dessous, dans les pas de cet éléphant qui marchait, nageait, qui flottait plus qu'il ne nageait, qui avançait, qui traversait le bras de mer. C'était en 88, avril 88, quelque chose comme ça.
Alors sur France Inter, c'est la journée particulière de François Sarano, en mai 2015, alors que vous nagiez au large de l'île Maurice. Elliot, un jeune cachalot sauvage, est venu à votre rencontre. Ce jour-là, les rôles se sont inversés. C'est l'animal qui vous étudiait, vous, le spécialiste des cachalots. Ce jour-là, François Sarano, vous vous êtes laissé apprivoiser.
La Californie n'a plus Dieu pour les vedettes de Hollywood depuis qu'on a apprivoisé ce jeune cachalot. Un chien est aussi familier, mais on n'avait jamais encore vu un cachalot faire le beau.
Alors, je vous ai vu avec François Sarano un grand point d'interrogation dans vos yeux. C'est une archive de 1957, extraite des actualités françaises, et on y voit un cachalot docile comme un chien.
Ah bah alors ça, je veux cette archive, j'ai jamais entendu ça, c'est extraordinaire. Comme quoi quelqu'un a eu aussi la chance d'être interpellé par un cachalot, déjà formidable. mais attention, si elle date de cette époque... C'est l'époque de la grande chasse. Il faut savoir que jusque dans les années 1960, les cachalots étaient massacrés. En 1960, on en a tué 30 000 en un an. Et les populations de l'océan Indien, les populations surtout du Pacifique, ont été à ce point mises à mal que certaines ont failli disparaître. Et il a fallu attendre 1980 pour que enfin le moratoire les sauve, et que nous ayons la chance aujourd'hui de vivre avec les descendants de ces rescapés.
Alors écoutons, parlons cachalot encore, François Sarano.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un cachalot ? C'est une mignonne petite bête, jamais de plus de 15 mètres de long. Vous voyez, jamais plus de 53 tonnes. Vous voyez, un camion et sa remorque, ça représente, en forme de cachalot. Une énorme tête carrée, une nageoire à la queue formidable, et une grosse mâchoire avec des dents de 45 cm. Pourquoi ces dents ? Parce que le cachalot se bat avec les pieuvres, les grandes pieuvres. Oui, ça on le sait, parce qu'on a trouvé dans l'estomac des cachalots des tentacules de pieuvres qui avaient 15 mètres de long. Vous imaginez la bataille de ce cachalot de 53 000 kilos et d'une pieuvre qui a des tentacules de 15 mètres de long, c'est vertigineux. Or, le cachalot est très intelligent. Et ça on le sait qu'il est très intelligent par le commandant Cousteau. C'est une histoire très curieuse. Une fois, le bateau du commandant Cousteau accroche par mégarde un jeune cachalot qui jouait devant son étrave. Vous savez, un jeune. Il l'accroche, il le blesse. Et à ce moment-là, les grands cachalots qui l'accompagnaient, qui étaient sous l'eau, sont montés et ont encadré le petit entre eux. Ils l'ont coincé, vous comprenez, entre eux, pour le forcer à rester sur l'eau, à ne pas se noyer. Il était blessé pour qu'il ne se noie pas. Ils se sont entraidés. Or, l'entraide, c'est extrêmement rare. C'est donc la preuve qu'ils sont très intelligents, les cachalots.
François Sarano, c'était une archive de Jacques Trémolin, qui vous le connaissiez ?
Formidable, vraiment formidable.
Hein, c'était un extraordinaire conteur et chroniqueur animalier pour les enfants dans les années 70. Il a sévi aussi sur France Inter. Vous êtes tout à fait d'accord avec cette description, j'imagine.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a appris un petit peu plus sur les soi-disant combats titans. Le pauvre Calmar.
Oui.
Et comment peut-il lutter contre un cachalot ? Il est juste... La seule lutte, c'est d'essayer d'éviter d'être avalé tout rond. Donc, effectivement, on voit les traces des ventouses, parce que le pauvre Calmar, il accroche ses ventouses sur la face du cachalot pour ne pas être englouti. Parce qu'il n'a aucun point pour se fixer, le Calmar. C'est pas un poulpe, il n'est pas sur le fond. Et donc, la lutte est très inégale. Et surtout pour la coopération... Avec
la solidarité, vous voulez dire.
Alors, il y a la solidarité et la coopération. Oui. Solidarité, le cachalot est un animal social, par essence social, solidaire. Il y a des nounous qui s'occupent des petits, des mères pendant qu'elles vont chasser. Enfin, c'est vraiment une société extrêmement altruiste. Et tout est tourné vers l'autre. Mais je parlais maintenant de coopération et d'intelligence. Mon ami le professeur Hervé Glotin, avec les outils qu'on a un peu mis au point ensemble, a montré, juste cette année, comment les cachalots dans les grandes profondeurs coopèrent pour chasser. Eh bien, ils se mettent à une distance de 500 mètres les uns des autres, parce que c'est la distance optimum, et chacun à son tour, ils vont émettre un clic. Ce clic part dans le milieu et va rebondir sur le calmar. Et tous les autres cachalots écoutent d'où vient l'écho de ce clic.
Pour repérer où est le calmar.
Pour repérer le calmar. Et chacun à son tour émet un clic. Ce qui fait que, bénéficiant de tous ces échos, chaque cachalot a une vision stéréoscopique de la nuit des profondeurs. Et dans la nuit absolue, il repère avec aisance le petit calmar, parce qu'il ne chasse pas que des gros calmars, hein, il chasse parfois des calmars d'à peine un kilo, et ils arrivent à se nourrir. Eh bien, cette coopération extrêmement complexe nécessite, encore une fois, une intelligence collective formidable. Et on vient de le montrer.
Qu'est-ce qu'on entend là, François Sarano ?
Qui on entend ? Delphine et Vanessa.
Alors vous leur donnez des prénoms. On oui. vous a accusé d'anthropomorphisme.
Oh formidable, je prends cette accusation à bras ouverts. Non. Je simplement m'autorise à voir en chacun d'eux une personne non humaine.
Parce qu'il y a des individualités,
bien
il y a
sûr
des caractères.
Qu'il y a des individualités. Bien sûr, Delphine ne sera jamais Vanessa, elles n'ont
et
pas
Elliot.
Les mêmes caractères. Et Elliot ne sera jamais Arthur, et Arthur, malheureusement, qui est très timide, n'aura jamais le comportement d'Elliot. Allons, soyons raisonnables. Chaque animal est différent de son congénère. D'abord parce qu'il a une identité génétique, et après parce qu'il construit sa personnalité au cours de sa vie grâce aux expériences qu'il a. Et c'est quelque chose qui est dynamique, la construction d'une personnalité. Chaque jour un peu plus, il s'enrichit des expériences qu'il a et il influence mieux. Après ce moment ensemble, nous serons l'un et l'autre différents et plus riches de ce que nous étions la veille. C'est pareil pour les animaux. En conséquence, leur mettre des numéros, c'est les réifier, les chosifier, et se mettre des œillères qui empêchent de voir les différences formidables qu'il existe entre chacun d'eux.
Entre chacun d'eux et entre chaque communauté, parce que ce que vous dites, François Sarano, c'est qu'il existe des communautés de cachalots, et en fonction des communautés, est-ce qu'on peut dire on ne parle pas les mêmes cliques ?
Ce que vous venez d'entendre est spécifique au clan de Irène Gueule Tordue, dont font partie Delphine et Vanessa, que nous venons d'entendre. C'est une coda à 8 clics, 2 clics très serrés, et puis après 6 clics qui se suivent à intervalles à peu près réguliers.
Et Elliot, lui, parle comment ?
La même langue, il fait partie du même clan. Le clan d'Irène Gueule Tordue, c'est 17 femelles, aujourd'hui, c'est 17 femelles adultes et 11 jeunes. Lorsque nous les avons rencontrées pour la première fois, c'était juste 17 femelles adultes, c'est-à-dire qu'en 10 ans, on a eu 11 petits. On les a vus naître, pour certains. Je peux vous dire que Lana est née dans la nuit du 20 au 21 février 2019.
Mais comment ça se passe, une naissance?
Alors,
d'un bébé
comment ça se passe? La mère accouche, mais il y a beaucoup de sang et on ne voit pas très bien comment se fait l'accouchement. On sait que le petit sort d'abord par la caudale et la tête et qu'il doit respirer tout de suite après la naissance. Mais nous avons vu ça juste après et donc là, il y avait son demi-frère Arthur, il y avait sa nounou, future nounou, Germine et sa mère un peu épuisée, mais c'est les nounous et le frère qui l'ont porté en surface pour respirer. Mais oui, première respiration. Les cachalots sont des mammifères, ils avaient des ancêtres terrestres qui couraient sur les berges il y a 55 millions d'années. Et donc ils ont hérité de cet ancêtre terrestre, un lourd handicap, qui est celui de devoir respirer dans le monde des poissons.
Mais pourtant, c'est le roi des apnées, le cachalot.
Et c'est le roi des apnéistes. Il y en a d'autres aussi, hein. Les baleines à bec font aussi des apnées formidables. Mais le cachalot, 2000 mètres, 1h30, c'est formidable. Il a des capacités physiques formidables. Mais on croit toujours que c'est ses capacités physiques qui lui permettent de conquérir le milieu marin. Ben non! S'il n'y avait pas une solidarité sociale, il n'y aurait plus de cachalots. Pourquoi ? Parce que les mères ne peuvent pas partir dans les profondeurs avec leurs petits. Elles les laissent donc dans le grand bleu, où il n'y a nulle part où se protéger des prédateurs. Et les petits ne peuvent pas fuir. Par conséquent, les mères auraient à choisir entre se nourrir et protéger leurs petits. Et elles ont trouvé la solution. La crèche et les nounous. Par conséquent, quand madame par faire les courses, eh bien, elle confie le petit à la nounou. Ah, et avec beaucoup de délicatesse, certaines nounous allaitent le petit d'une autre.
Vous parlez de solidarité sociale, mais vous parlez aussi d'organisation sociale. Quand les grands mâles reviennent dans leur communauté, vous avez vu que tous les cachalots venaient célébrer le retour de ces grands mâles.
Alors ça, je peux juste dire, c'est une découverte.
Ah.
C'est une découverte. Parce que si vous lisez dans la littérature aujourd'hui, le rôle des grands mâles, c'est d'être des reproducteurs, point barre.
Ouais.
Et ces reproducteurs sont soi-disant des violents qui combattent pour avoir un harem. Mais où est-ce qu'on a vu ça?
C'est ça.
Ça, c'est de la littérature.
C'est ça.
Lorsque les grands mâles reviennent de leur voyage formidable, chez nous, à l'île Maurice, les grands mâles, ils partent à Kerguelen, à Crozet, ils vont voir les albatros, les éléphants de mer, les tempêtes, les cinquantièmes rugissants, les eaux noires, et ils reviennent dans les eaux chaudes et claires de l'île Maurice, et lorsqu'ils arrivent, alors, tout le clan, ou parfois les clans, se rassemblent. Et lorsque tout d'un coup, le grand mâle se met à la verticale, 20 mètres à la verticale, suspendu dans l'épaisseur liquide et qu'il fait... Alors, tous les jeunes se rassemblent et viennent se poser sur sa tête, tête contre tête, comme les pétales d'une tulipe. Et il descend le long de son corps et il le caresse et il l'écoute. Ce qui veut dire que si ces jeunes, qui sont souvent des jeunes mâles, viennent écouter le grand mâle, c'est pas pour des raisons de reproduction. C'est donc pour des raisons sociales. Le grand mâle raconte quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais il a un rôle social, puisqu'il communique quelque chose à tous ces jeunes qui viennent l'écouter, et aux autres femelles. Nous en sommes à l'aube de l'exploration de ce rôle des grands mâles. Ils sont pas là très longtemps, ils vont rester 3 semaines, 1 mois, dans le clan où ils ont des descendants. Ils reviennent jamais dans le clan originel, dans le clan matriarcal dont ils sont issus.
Vous avez dit une chose très importante, François Sarano, c'est qu'ils se mettaient tête contre tête et l'importance du toucher chez les cachalots. Les cachalots adorent se toucher, se caresser, jouer.
Les cachalots, c'est les maîtres de la caresse.
C'est bonobo de l'océan.
Exactement. D'ailleurs, les codas à 8 clics sont des codas qui demandent ce contact physique. Et les femelles entre elles ont des contacts extrêmement sexuels.
Ouais.
Donc,
en se frottant sur la nageoire dorsale.
En se frottant, oui, sur la nageoire dorsale, sur le ventre, il y a différentes positions. Mais les contacts homosexuels chez les cachalots sont quotidiens. C'est quotidien. Et il y a des couples. Le couple Delphine-Vanessa est un couple plutôt stable. Moi, je l'ai vu la première fois en 2013. Et comme je n'y connaissais rien du tout, de loin, j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, un accouplement. Mais non, c'était bien 2 femelles et pas un mâle et une femelle. C'était Delphine et Vanessa. 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Donc, c'est un couple relativement stable.
Et une image encore, c'est le dortoir des cachalots. Ah. Les cachalots dorment ensemble.
Aïe, aïe, aïe. Le dortoir, c'est... Comment décrire? L'eau est lisse, vous vous mettez à l'eau, vous ne voyez rien. Vous regardez dessous, et là, des menhirs de 15 mètres, suspendus, verticaux, qui ne bougent pas. Parfois, une petite bulle qui s'échappe de l'évandin des cachalots. Silence absolu. Et comme... Nous sommes bienveillants, nous les respectons, que nous sommes calmes, alors ils nous tolèrent, au point de nous laisser nager entre eux. Vous imaginez, c'est une cathédrale. C'est une cathédrale incroyable. Et ces piliers, et quand on s'approche d'eux, tout d'un coup, l'œil...
Ils ouvrent un œil. Oh,
ouais, ils vous regardent, d'un air de dire, t'inquiète.
Je t'ai vu.
Et hop, ils referment. Et on est là, entre ces menhirs formidables, c'est un calme absolu, une sérénité parfaite, parfaite.
Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons. Comme autant de collines occultant l'horizon. de crêtes insensibles à la natio des plaines. Je suis vraiment navré, te dit le capitaine. Et tu sens qu'il dit vrai et qu'il a le cœur bon. Dès lors la bouche fermée d'une femme au harpon qui entre dans tes murs et saigne les baleines, te fait des mois durant dédaigner l'horizon. Et lorsque tu le croises, snobé le capitaine. Quand tu rentres chez toi, tu te dis qu'il fait bon. Le mensonge est partout, infiltré dans tes veines. Tant tu aimes goûter au sang de la baleine qui déborde des lèvres de la femme au harpon. Mais un jour sur ta manche, tire le capitaine. Les yeux exorbités, il te dit repartons. Il est temps de sortir du sommeil des reines, car nul ne vous attend autant que l'horizon. C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Mais celui-ci t'échappe, stoppé dans son élan, par des sommets hargneux, des vallées encaissées, des villes au cœur de pierre, aux formes insensées. Vois, la barbe te pousse et ton pas se fait lent.
François Sarano, L'Horizon de Dominica, inspiré de Moby Dick, de Melville. C'était pour vous ce disque, hein. Je vous vois fermer les yeux là.
Oui, vous avez trouvé de très 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 beaux chansons poétiques que j'ignorais. Merci, c'est formidable. Formidable, je vais réécouter tout ça.
Alors c'est toujours sur France Inter la journée particulière de l'océanographe François Sarano. En mai 2015, au large de l'île Maurice, vous avez dansé avec le jeune cachalot sauvage Elliot, et j'avoue que je suis jalouse. Et vous avez été bouleversée de cette rencontre pour toujours. C'est une de vos plus belles rencontres, François Sarano, mais il y en a eu d'autres. D'autres rencontres sous-marines, et je crois savoir que la première, c'est avec un poulpe. Quand vous étiez enfant, vous avez vu l'œil du poulpe.
Mon père et ma mère m'avaient emmené au bord de la mer, et mon père m'avait offert un masque. Et je ne sais plus très bien quel âge j'avais, mais du plus loin de mes souvenirs, je me souviens de son œil, effectivement. J'avais, je crois, 4 ans, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Et cet œil, doré, avec une pupille noir, horizontal, et il est petit, mais il est vertigineux. Et je me souviens avoir été à ce point stupéfait, parce que vraiment, il m'a interpellé, vraiment, je le vois en ce moment, je le vois cet œil. Et je pense que c'est lui qui m'a dit, viens explorer le monde, viens explorer le monde. Et puis le poulpe, c'est un animal incroyable, hein. Avec ses changements de teinte, les miroitements de sa peau, il peut même changer de texture de peau, il peut prendre des formes formidables. Lui, même s'il est très gros, se glisser dans un tout petit interstice, c'est un animal fascinant, d'une intelligence incroyable.
François Sarano, vous pensez que dans votre métier de chercheur, on ne peut pas faire l'économie de l'immersion et de la rencontre, et une de vos références, François Sarano, c'est la primatologue, vous savez qui ?
Jane Goodell. Ah oui, ça c'est...
On avait dit à Jane Goodell, les chimpanzés sauvages sont dangereux, méfiez-vous, jamais vous ne pourrez les approcher. 3 ans après, Jane Goodell joue familièrement avec les bêtes les plus sauvages du monde. Le campement est au bord du lac Tanganyika. Jane y vit seule. pensais parfois que jamais je n'arriverais à mener ma tâche à bien. Je voulais qu'ils m'acceptent comme un élément normal de leur paysage de tous les jours. Elles décident de passer la nuit sur place pour vivre, se coucher et se réveiller comme eux. Et c'est peut-être cette nuit-là que les chimpanzés sauvages ont commencé d'accepter parmi eux la présence du grand singe blanc.
François Sarano, cette archive vous plaît? Jane Goodall vivait avec les chimpanzés et voulait être acceptée d'eux. Et c'est un peu comme ça que vous pensez votre métier. Vous cherchez à penser cachalot, à nager avec eux.
Je dirais pas simplement mon métier, ma vie. Je pense que la rencontre, ça nous fait nous. Et qu'il faut y aller toujours, nu. Quand je dis nu, c'est sans a priori. La tête vide, les oreilles ouvertes, prêt à recevoir ce que l'autre va vous dire.
Alors vous êtes allé nu, pardon.
Oui.
Vous y êtes allé nu quand vous avez rencontré cette raie amoureuse. Vous y êtes allé nu, François Sarano, quand vous êtes allé plonger à la rencontre de ce crocodile qu'on vous avait dit hyper dangereux, ou quand vous avez rencontré le requin blanc.
J'ai appris. C'est vrai que dans les années sur la Calypso, Cousteau, j'étais moins attentif à l'autre et plus à aller près de l'autre, sans savoir l'écouter. Donc j'ai appris. Je suis pas sûr qu'avec le crocodile de mer, j'étais très ouvert. J'avais surtout envie de dire, il est possible de nager avec cet animal que personne n'est allé rencontrer parce qu'on en a peur, et donc il fallait briser le tabou. Et avec Michel Deloire, nous avons brisé ce tabou. Et aujourd'hui, tout le monde va plonger avec les crocodiles. Alors qu'aujourd'hui, avec Elliot, avec le requin blanc, ou avec les requins bulldogs hier, j'étais en plongée il y a quelques jours là, avec les requins bulldogs, c'est plus l'idée de qu'est-ce qu'on va pouvoir échanger, et je suis prêt à vous écouter.
Alors qu'est-ce que vous avez échangé avec le requin blanc ou le requin bulldog?
Alors avec le requin blanc, qui est quand même une plongée formidable, que je dois à Jacques Perrin et à toute l'équipe d'Océan, c'était en 2006, nous avions depuis plusieurs jours nagé avec des grands blancs, encore une fois librement, sans protection particulière, mais il n'y avait pas eu de véritable rencontre. Hein, on se croise, on se regarde, et un jour, une chance incroyable. Avec David, on était dans l'eau, et on a été entraîné par le courant loin du bateau, et tout d'un coup, face à nous, une énorme femelle, vraiment une énorme femelle.
Requin blanc.
5 mètres, grand requin blanc, oui, ce qu'on a bêtement appelé les dents de la mer. 5 mètres 50, une tonne et demie, est arrivée sur d'elle, calme. Et elle m'a accepté. Et pendant un peu plus d'une minute et demie, j'étais quasiment posé sur sa nageoire pectorale. J'ai glissé un moment un peu plus avant, œil dans œil. Sérénité, c'était de la paix, c'était un moment de grande paix. Et on se dit que cette rencontre, on n'a pas beaucoup échangé, mais où on a trouvé encore une fois cette distance juste qui permet de s'accorder un moment ensemble. Plus d'agressivité, plus on était tellement, d'ailleurs agressivité, pourquoi j'emploie ce mot? On est tellement loin de tout ça à ce moment-là. J'avais envie, quand j'étais posé sur cette nageoire, je remerciais, merci Jacques Perrin, merci Jacques Luzot, merci l'équipe. Je voulais que Véronique, Maud, Marion, mes filles soient avec moi là pour partager ce moment. Je voulais que tout ce que j'aime soit là. Et ce moment-là, vous aimez le monde entier. Vous voulez dire au monde, venez avec moi rencontrer le requin blanc, vous serez en paix. Vraiment. Ça vous ouvre sur les autres, ça vous donne envie de dire « Mais bon, prêtons attention à ce qui est autour de nous. » Et à partir du moment où on prête attention, alors tout s'ouvre, tout devient paisible. Je ne sais pas comment exprimer, mais c'est fort, c'est fort. Et là, je me suis dit, comme pour le crocodile de mer d'ailleurs, voilà ce que la rencontre offre. Elle fait exploser toutes les idées reçues. Il faut faire ce pas. Il faut faire ce pas. Il faut aller nu vers ceux, surtout que l'on calomnie, surtout ceux-là, sur lesquels on raconte des choses sans jamais aller les rencontrer. Et encore une fois, c'est valable pour mon voisin qui a une religion différente, qui a une culture différente, qui a des traditions différentes. Allons les écouter, bon sang. Ils ont des histoires formidables. Ils ont des histoires formidables.
François Sarano, le premier avec qui vous avez commencé à à écouter, et surtout le premier qui a, nous, le téléspectateur, nous a fait découvrir ce monde que vous découvrez, qui nous était encore inconnu il y a 50 ans, c'était le commandant Cousteau. Vous avez travaillé avec le commandant Cousteau pendant 13 ans.
Pendant que la surface de la Terre était ravagée par la guerre, un jeune officier de marine mettait au point une invention qui allait permettre aux hommes une mutation non moins étrange que celle qui, avec l'aviation, les avait transformés en oiseaux. Jacques-Yves Cousteau ouvrait avec son scaphandre autonome la porte de l'univers marin. Jusque-là, seuls les plongeurs professionnels recouverts de scaphandres lourds se promenaient dans un monde où ils pénétraient un intrus. L'invention de Jacques-Yves Cousteau a permis aux hommes d'être des poissons.
Alors, François Sarano, c'est une archive de 1963. Il a permis aux hommes d'être des poissons.
Alors, le commandant Cousteau avec Émile Gagnan ont mis au point effectivement un appareil qui permettait de respirer de l'air comprimé librement, sans souci, et effectivement d'évoluer comme un poisson, comme une otarie, faire des arabesques. Vous n'imaginez pas la jouissance qu'il y a à avoir sur le dos ce scaphandre lorsqu'il est bien fixé, parce que il vous offre la possibilité de devenir papillon sur une inspiration, parce que vous vous élevez et que vous êtes léger, et tout d'un coup, sur une expiration, tout d'un coup, un peu plus lourd, vous vous enfoncez et vous descendez sans aucun mouvement vers le poulpe, justement, qui est là sur le fond et qui, comme il ne vous voit pas bouger, vous regarde comme ça. Et puis, au moment où vous allez vous écraser sur lui, une inspiration et vous vous envolez à nouveau et vous repassez au-dessus de la Gorgone. C'est une vraie jouissance. Et c'est ça ce que nous offre le scaphandre bonhomme. C'est d'être léger, précis comme une hirondelle. Vraiment, il y a un bonheur à nager avec ce scaphandre.
Et ça, c'était le commandant Cousteau.
Et Taïez et Dumas et toute l'équipe et Albert Falco et... Et Cousteau, c'est une équipe qui a petit à petit, je dis bien une équipe, parce que c'est l'équipe Cousteau qui pendant 50 ans nous a à la fois fait voyager et nous a permis de découvrir un monde qui n'existait pas avant lui. Hein, c'était la mer, c'était 360 millions de kilomètres carrés de miroir de surface sous lequel on ne savait pas ce qu'il y avait.
François Sarano, c'est un peu grâce à toutes ces rencontres sous-marines et ces rencontres humaines que vous êtes devenu le défenseur de la nature et de la mer que vous êtes aujourd'hui. C'est ce que vous faites aujourd'hui, vous défendez les fonds marins, vous défendez cette vie sauvage sous-marine.
Oui, je défends à la fois cette vie sauvage sous-marine. Avec mon épouse, on a fondé une association, Longitude 181, qui essaye d'amener les gens à se dire « nous sommes riches de tous nos colocataires ». Hein, c'est pas simplement pour sauver la vie sauvage, c'est pour que nous nous réconcilions avec elle et que nous soyons riches. Voilà, j'ai une petite fille, Ayaté, je voudrais qu'elle vive les rencontres que j'ai pu vivre moi. Parce que ces rencontres, c'est du bonheur. Ça offre encore une fois de la paix, des moments de bien-être formidables qu'on a envie de partager avec les autres. Je pense que si on préserve le sauvage et qu'on essaye d'aller à sa rencontre, on n'est plus à même de regarder son voisin et d'être en paix avec lui. L'école de la nature est la plus belle école qui soit. C'est difficile d'aller au-devant d'un animal sauvage. On ne peut pas parler, on ne peut pas le leurrer. Avec lui, on ne peut pas tricher. Donc, comme on ne peut pas tricher, si on veut le rencontrer, on est obligé de se dépouiller complètement. Et donc, ça apprend à rencontrer les autres.
Alors, il y a un écrivain qui a particulièrement bien parlé du monde sauvage et des animaux sauvages, des éléphants, qu'il appelait les grands encombrants, les cachalots.
C'est Romain Gary. Il dit des choses, encore une fois, relisez Les Racines du Ciel. C'est un roman bouleversant sur la dignité humaine. Pas simplement le premier roman qui parle d'environnement. Il parle de nous, il parle d'humanisme. Il dit, c'est le respect des autres, de tous les autres, qui fait notre humanisme, qui fait notre humanité, qui fait de nous ce que nous prétendons être, Homo sapiens. Donc je ne fais que bafouiller, que plagier, que bégayer ce que Romain Gary a dit divinement.
Donc il écrit que les hommes ont besoin de ces encombrants, il faut s'engager pour sauver ces encombrants, ils sont essentiels. Les préserver, c'est nous préserver, si on perd les cachalots, on se perd.
On se perd.
So, may we start?
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start. May we not start.
So may we start.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
François Sarano, votre journée particulière, c'était un jour de mai 2015. Et là, c'est le moment un peu particulier de notre émission, c'est le moment du hit parade. C'est-à-dire, il y a toujours un moment dans notre émission où on décide un peu de vous éprouver sur les événements qui se sont passés l'année de votre journée particulière. Et on commence toujours par le hit parade. Et en 2015, on entendait ça.
Ça paye comme jamais, ça paye comme jamais, ça paye comme jamais, Loulou et Boudin, Loulou et Boudin, Coco na Chanel, Coco na Chanel.
François Sarano, on est loin des cachalots. Vous avez dansé sur Sapé comme jamais de Maître Gims.
Ah bah j'aurais bien aimé parce que c'était plutôt joyeux et j'ai loupé ça. J'ai loupé ça. J'étais probablement. C'était une année où nous avons été avec Véronique beaucoup en mer et donc
de Maître Gims.
Pas Maître Gims. Et je vais en profiter. Je vais l'écouter. Nous danserons ensemble. Il faut danser est un chanter, danser, siffloter, la musique. Ça réconcilie aussi les hommes. C'est magique. Ça fait la bonne humeur.
En janvier 2015, François Sarano, le Parlement a adopté définitivement le projet de loi modernisant le statut juridique de l'animal. En reconnaissant sa nature d'être vivant et sensible, cette modification historique du Code civil est l'aboutissement de 10 ans de réflexion et de 10 mois de débats parlementaires.
Ça met fin à une vision archaïque qui dure depuis 200 ans, depuis que, en 1804, le Code civil a été créé. Et je dois dire que les 52% de Français qui ont des animaux de compagnie, pour eux, c'était tout à fait évident que leur animal était un être vivant et sensible. Donc voilà, ça met fin à l'animal utilitaire, à l'animal objet de Descartes, qui était de la même époque.
C'est Réa Hutin que l'on vient d'entendre. Donc depuis janvier 2015, l'animal n'est plus considéré comme un bien meuble, François Sarano. On se pince.
Ouais, on se pince, oui. On peut pas dire que ça met fin. On peut dire que ça nous met sur le chemin de la reconnaissance et de la considération pour tous les autres non-humains. Mais on en est loin de cette considération. Pardon, il n'y a qu'à voir ce que montre l'association L214. Est-ce que vous considérez un poisson comme un animal vivant? Quand je vois qu'on lui laisse crever sur la plage, après les avoir hameçonnés, pour le plaisir, on joue. Vous savez qu'aujourd'hui, on organise encore en France des concours de jouer à tuer les poissons, des concours de chasse sous-marine. Oui, on le fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rassemblent pour savoir qui va tuer le plus de poissons. Comme ça, pour le plaisir, des concours. Donc on en est loin de considérer les autres, les poissons, les mammifères marins, les papillons, comme des êtres vivants, qui souffrent, qui ont une sensibilité. C'est pas la nôtre, il y a des continuums, et c'est pas tout à fait ce que nous ressentons, nous, mais ils ressentent. Et ils ont certainement des sens que nous n'avons pas, et ils nous traiteraient de pauvres et d'infirmes s'ils devaient, eux, nous considérer. C'est-à-dire que nous devons avoir de la considération. Il s'agit pas de ne pas manger ceci, de ne pas manger là, mais de considérer et de savoir exactement ce que nous faisons.
Je vous propose, François Sarano, avant de nous séparer, de vous faire écouter une femme océanographe, la première femme océanographe, Anita
Conti.
À quoi ressemble une aurore boréale?
Un rêve, un théâtre, tout sauf à une aurore. Ce n'est pas une aurore parce que c'est très près. L'aurore est quelque chose d'éloigné, tandis que l'aurore boréale, imaginez une nuit claire, noire, glacée, et du fond de l'horizon, généralement l'est-ouest, jaillit un feu vert qui monte, dessine une arabesque, généralement un point d'interrogation. Du point opposé, jaillissent d'autres flammes vertes. Elles se réunissent au zénith. Et quand elles se réunissent au zénith, elles sont vertes, mais elles sourlent de rose. Elles deviennent de feu rose. Et elles semblent danser autour de nous comme des robes de tulle. Une aurore boréale, c'est une immense danseuse qui enveloppe le navire d'un voile de rêve et de feu. C'est très dense, on est dans l'aurore. Mais c'est gênant, ça brouille les transmissions.
Ça brouille les transmissions, dit-elle, cette énorme danseuse.
Mais elle communique bien. J'ai eu la chance de la croiser une fois dans les bureaux de l'équipe Cousteau, parce que dans les dernières années, elle écrivait un peu pour le journal Le Calypsologue. C'est une femme hors du commun. D'abord par son courage, hein. Il fallait dans les années 30 embarquer sur les vrais bateaux de pêche et avoir froid, la poisse, les écailles, le sang de poisson, la vie de marin. Enfin bon, c'était très très dur. Et elle a témoigné. Elle a témoigné avec un verbe, avec une écriture juste magique. Elle vous emporte. Il faut relire Racleur d'océan, il faut relire tous ces livres extraordinaire. Et vous êtes sur le bateau avec elle. Vous êtes dans la tempête. Vous recevez les embruns. Vous avez les sels qui vous collent. Et c'est merveilleux. Anita Conti, c'est merveilleux.
Elle est importante pour vous.
Ah c'est... oui. C'est quelqu'un qui, avant Cousteau même, a témoigné de l'impact que les pêches très importantes sur le banc de morue avaient sur les populations de poissons, et elle avait mis en garde. Elle était attentive. Elle était aussi attentive aux gens, aux marins. Elle les aimait. Et comment dire? C'était quelqu'un d'extrêmement sensible qui était attentive aux autres.
Merci François Sarano, c'est fini.
Merci Zoé Varier.
Merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous. Alors, il y a plusieurs livres. Hein. Il y a un premier livre, Le Retour de Moby Dick, ou Ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes, chez Actes Sud.
Oui.
Il y a un autre livre qui est un livre d'échange.
D'échange avec Coralie Chaube, et qui est toujours chez Actes Sud, et qui est Réconcilier les hommes avec la vie sauvage.
Et puis, il y a votre association.
Et qui est Longitude 181, dont le président est Patrice Bureau, et il faut nous rejoindre. Parce que c'est pour qu'ensemble, on offre à nos enfants une mer plus riche que ce qu'elle est aujourd'hui.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combes, programmation musicale Chewbacca, à la réalisation Flora Bernard, et à la technique aujourd'hui, c'était Ronan Mahé. Nous, on se retrouve dimanche prochain, 16h, c'est le nouvel horaire d'une journée particulière. Notez-le sur vos tablettes. Et si vous ne pouvez pas nous écouter, podcastez l'émission. Voilà, à la semaine prochaine.